merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Dans l'ascenseur, il y a des affiches qui nous conseillent de sortir le moins possible. J'ai pris le métro tout à l'heure, il n'y a presque personne. Tout le monde porte un masque.
C'est tout un pays qui se coupe du monde. La Chine compte 13 villes où les habitants sont confinés, 26 morts, 830 cas recensés de coronavirus. Nous sommes en Chine, Pierre, dès le début de ce journal.
Et en France, on est préparé à l'hypothèse de voir un cas arriver sur notre sol si les aéroports n'ont pas l'autorisation de l'OMS d'examiner les voyageurs. En revanche, certains hôpitaux sont spécialisés dans l'accueil de malades infectés. C'est le cas à Rennes.
L'arrivée massive de patients, c'est une éventualité qu'on envisage tout le temps, qu'on a des entraînements. Avec des simulations deux fois par an.
51e jour de grève et les syndicats s'attendent aujourd'hui à une grande nouvelle journée de mobilisation à Paris mais aussi en province. Au même moment, le projet de réforme est en Conseil des ministres. Laurent Berger de la CFDT appelle l'exécutif sur Europe 1 à la clarification.
Le gouvernement doit sortir du flou sur un certain nombre de sujets et puis je crois que les organisations syndicales ont comme responsabilité de se battre.
Dans ce journal également, l'audition de Monique Olivier, très attendue ce vendredi. Va-t-on avoir la vérité sur l'enlèvement d'Estelle Mouzin ?
Attention aux chargeurs de téléphone, ils peuvent exploser ou imploser. L'UFC que choisir alerte là-dessus.
Un show à l'américaine ce soir à Bercy. La NBA débarque et comme tous les vendredis, nos idées de sortie pour ce week-end. La météo, Céline Dacosta, retour du calme dans le sud-ouest.
Oui, toutes les vigilances ont été levées. Les pluies se sont décalées vers l'est, mais sont beaucoup plus faibles. Ailleurs, le temps est plus calme. Beaucoup de nuages, mais encore quelques éclaircies.
Merci Céline. Météo complète, ce sera à 12h30 sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et décidément, Pierre, la Chine se referme de plus en plus. 26 morts déjà. La pneumonie virale a touché 830 personnes.
Sur 40 millions de Chinois qui, pour la plupart, sont confinés, au total, 13 municipalités ont pris les mêmes dispositions que Wuhan. Tout est fermé, impossibilité de sortir. Sébastien Lebelzig, vous êtes notre correspondant à Pékin. La capitale aussi se referme sur le monde. Racontez-nous.
Alors c'est une ville quasi déserte, méconnaissable. À quelques heures du Nouvel An chinois, les esprits ne sont pas du tout à la fête à Pékin. La cité interdite est fermée aux touristes, toutes les festivités sont annulées et la mairie conseille aux habitants de rester chez eux. Écoutez cette jeune femme, l'une des rares que nous avons croisée tout à l'heure dans les rues de la capitale.
Chez moi, dans l'ascenseur, il y a des affiches qui nous conseillent de sortir le moins possible. On ne pourra rien faire pendant ces vacances du Nouvel An. J'ai pris le métro tout à l'heure, il n'y a presque personne. Tout le monde porte un masque.
Si à Pékin l'heure est grave, c'est que l'épidémie ne cesse de s'étendre. À Wuhan, où tout a commencé, 40 millions de personnes sont placées en quarantaine. Interdiction pour elles de quitter la ville. La police militaire contrôle tous les accès, les gares et les aéroports. Les hôpitaux sont débordés et un immense bâtiment de 1000 lits est en construction pour accueillir les malades. Des médecins ont dû être envoyés en renfort de toute la Chine.
Merci Sébastien Lebelzig, correspondant d'Europe 1 à Pékin en France. Encore trop tôt pour dire si des cas ont été détectés sur notre sol. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'émoi sur les réseaux sociaux et qu'inversement, le ministère de la Santé reste très prudent, à juste titre, sur des éventuels patients examinés.
Une chose est sûre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en France, il y a une dizaine d'hôpitaux, aussi bien en métropole d'ailleurs que dans les dom-tom, qui sont labellisés, référencés pour la prise en charge des maladies infectieuses. C'est le cas à Rennes notamment, où les équipes sont prêtes en cas de présence sur notre sol du virus chinois. Reportage sur place, signé François Coulon.
Nous sommes dans la chambre 13 du centre des maladies infectieuses, fenêtre totalement hermétique. C'est ici qu'un éventuel porteur du coronavirus sera placé à l'isolement, le professeur Mathieu Reveste.
S'il émet du virus dans l'air environnant, de toute façon, l'air va être aspiré par des filtres spécifiques pour piéger les micro-organismes et les détruire. Ils ne peuvent pas sortir de l'extérieur de la chambre pour aller contaminer l'environnement.
15 médecins et une cinquantaine d'infirmiers et aides-soignants experts en maladies infectieuses pourront prendre en charge des malades en contact avec le virus chinois.
On a des entraînements avec des simulations deux fois par an. L'arrivée massive de patients, c'est une éventualité qu'on envisage tout le temps. Il y a des systèmes de tentes à construire très rapidement, etc. Mais avec la surveillance qui est faite actuellement, l'idée d'un nombre massif de malades qui dépasserait le système de santé, c'est plus de la science-fiction et du cinéma que de la réalité.
Vous êtes en train de réviser, là ?
On a régulièrement des suspicions de maladies infectieuses émergentes. Donc, c'est presque de la routine d'accueillir des patients suspects de maladies infectieuses émergentes dans nos établissements de santé de référence.
Le professeur Reveste a reçu ces derniers jours quelques coups de fil inquiets. Aucune raison de paniquer, dit-il. Nous avons vraiment les moyens de faire face. Rennes, François Coulon, Europe.
Le risque, évidemment, il se situe dans les aéroports. C'est l'épicentre potentiel d'une contamination venue de Chine.
L'OMS, pour l'instant, ne fait que recommander d'établir des dépistages dans les aéroports. Concrètement, à Roissy et à Orly, comment procèdent les équipes d'ADP, Emmanuel Dutheil ?
Eh bien, on est en train de commencer à s'organiser depuis plusieurs jours. Déjà, les voyageurs qui arrivent de Chine sont avertis dès l'avion par des messages que l'on peut tous entendre, que s'ils présentent des symptômes, c'est-à-dire par exemple des cas de fièvre, eh bien, ils doivent absolument passer par les services médicaux de l'aéroport. Des services habitués à traiter ces cas du côté d'Aéroport de Paris. Il y a aussi des affiches qui ont été traduites en chinois, qui ont été installées ces derniers jours. Et puis, depuis hier, les mêmes passagers qui arrivent toujours de Chine reçoivent cette fois des flyers, alors toujours avec les mêmes informations pour les inciter à se présenter dans ces services d'Aéroport de Paris. Le dernier vol en provenance de Rouen est arrivé hier après-midi du côté de Roissy, mais il y a bien évidemment toujours des vols en provenance de Chine qui arrive à Paris. ADP se dit prêt à augmenter fortement ses mesures de sécurité, justement, comme vous le disiez, Raphaël, si l'OMS devait le demander. On a l'habitude et on est armé pour faire face à ces risques, veut-on rassurer du côté d'Aéroports de Paris.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Il est midi 6, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Nous sommes le 24 janvier et nous avons atteint, Pierre, aujourd'hui le 51e jour de mobilisation contre la réforme des retraites.
Et c'est le 7e jour de manifestation, alors que déjà mercredi prochain, on se prépare à nouveau à battre le pavé. De nouveau, des perturbations sur le rail, 70% des TER et intercités, 60% des Transiliens. Et comme début décembre, parce que c'est un symbole, la Tour Eiffel est fermée au public et donc aux touristes venus du monde entier.
Plusieurs manifestations en province, mais aussi à Paris. Le cortège est sur le point de s'élancer du quartier de la Porte Saint-Martin pour rejoindre la Concorde. Jean-Jacques Herry, vous êtes sur place dans la manifestation pour Europe 1.
Oui, avec une foule qui souvent se frotte les mains pour se réchauffer parce qu'il fait très froid ce matin pour cette nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. Et les manifestants, ils demandent toujours la même chose après plus de 50 jours de mobilisation, un retrait total de la réforme des retraites. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
Ce qu'on demande, c'est de retirer un projet dont les citoyens ont compris une seule chose. Une seule chose, c'est qu'on va travailler au moins jusqu'à 64 ans et pour beaucoup bien plus tard. Quand l'opinion publique, dont on nous promet depuis des semaines et des semaines qu'elle va se retourner et que la défiance vis-à-vis du gouvernement et du président de la République se renforce, c'est pas à nous de nous poser des questions, c'est à eux.
Dans le carré de tête, derrière les banderoles intersyndicales, on continue donc de vilipender un gouvernement qui ne veut pas céder et on pense déjà aux futures journées de mobilisation. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière.
Le projet du gouvernement est examiné aujourd'hui au Conseil des ministres. On va rentrer dans une phase de débat parlementaire. Eh bien, on examinera les formes de la mobilisation qu'on pourra mettre en place. Ce projet est néfaste pour l'avenir des retraites. On ne va pas laisser tomber aujourd'hui ce dont nous avons la conviction que c'est une erreur.
Voilà, même si on a pris un peu de retard ici, la manifestation va bientôt démarrer. Elle devra emprunter le boulevard de Sébastopol pour gagner ensuite la place du Châtelet avant de longer les quais de la Seine pour rejoindre en fin de manifestation la place de la Concorde.
Merci Jean-Jacques Herry dans le cortège parisien. Écoutez ce que disait Laurent Berger, le patron de la CFDT, à propos de ça ce matin sur Europe 1.
Je ne rentrerai pas dans la critique. Je crois qu'on a trop souffert de ça depuis des mois et des mois. Ce dont il est question, c'est que comment on sort de la situation actuelle qui fait qu'on ne parle plus du tout du sujet. Et le sujet, c'est quoi ? C'est il y a un système universel des retraites qui va être instauré. Ce projet tel qu'il est aujourd'hui, il est encore très flou, il est très insuffisant. Et donc, le gouvernement doit sortir du flou sur un certain nombre de sujets, notamment sur comment on va améliorer ce texte. Et puis, je crois que les organisations syndicales, en tout cas, c'est ce que va faire la CFDT, ils ont comme responsabilité de se battre sur les questions de pénibilité, sur les questions de minimum contributif. Enfin, c'est ce que va faire la CFDT, en tout cas.
Laurent Berger, le leader de la CFDT ce matin avec Sonia Mabrouk. Et l'exécutif est réuni en Conseil des ministres ce vendredi. Conseil reporté à cause du voyage présidentiel en Israël. Deux sujets sur la table. Le limogeage de Ségolène Royal en tant qu'ambassadrice des pôles, c'est fait. La porte-parole Sibeth Ndiaye l'a confirmé ce matin. Et bien sûr, la réforme des retraites.
À ce titre, le gouvernement a présenté ce matin l'étude d'impact de cette réforme, traduisait l'audit financier avec tous les chiffres à la clé. Olivier Samin, premier constat, le gouvernement dit que la réforme va rendre le système plus juste.
Oui, la réforme va opérer une redistribution massive vers les retraités modestes, dit le gouvernement. Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais d'après l'étude d'impact de 1000 pages publiée ce matin, si on prend la génération des personnes nées en 1980, parmi elles, les 25% de retraités les plus modestes verront leur pension augmenter de 30% par rapport au système actuel. Grâce à quoi ? Grâce à toute une série de mesures comme le minimum de pension qui sera porté à 1000 euros, à l'élargissement du périmètre des personnes éligibles à la pénibilité ou grâce encore à la réforme des droits familiaux qui, dit le gouvernement, sera plus favorable aux mères de famille. D'ailleurs, dit l'étude d'impact, le montant des pensions des femmes, pensions de droit direct, hein, c'est-à-dire sans tenir compte de ce qu'elles touchent en plus au titre de la réversion, ce montant sera amélioré de 6% pour la génération née en 1980 et de 13% pour la génération née en 1990.
Olivier, cette étude d'impact, elle évoque l'instauration d'un âge d'équilibre dans le futur système. Est-ce que cet âge d'équilibre changera les comportements ?
Alors, dans l'étude d'impact, l'hypothèse qui est retenue, c'est celle d'un âge d'équilibre à 65 ans, avec une pension minorée si vous partez avant et une pension majorée si vous partez après. Que se passera-t-il ? 50% des personnes ne modifieront pas leur âge de départ, dit l'étude. 30% l'avanceront et à l'inverse, 20% le reculeront. On parle bien là de l'âge d'équilibre qui sera dans la réforme et non pas de l'âge pivot que le gouvernement a retiré de son projet de loi et qui, lui, visait à atteindre l'équilibre financier du système de retraite à l'horizon 2027, c'est-à-dire à peu de choses près au moment de l'entrée en vigueur de la réforme.
Merci de ces explications. Olivier Samin.
Il est midi 11. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 et dans un instant, Monique Olivier pourrait-elle éclaircir le mystère autour de la disparition d'Estelle Mauzin. A tout de suite. Il est midi 14, la suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Ça fait 17 ans, Pierre, que le père d'Estelle Mauzin veut savoir la vérité sur la disparition de sa fille, à l'époque âgée de 9 ans.
Et dans cette affaire Mauzin, un nom est apparu il y a 2 ans, celui du tueur en série Michel Fourniret. Aujourd'hui, son ex-femme Monique Olivier est entendue, selon nos informations, c'est en ce moment même Guillaume Biais. Comment est-ce que Monique Olivier peut apporter des éléments sur la disparition d'Estelle Mauzin ?
Eh bien parce qu'il y a quelques années, Monique Olivier aurait fait des confidences en prison. Elle aurait fait des révélations à une codétenue de la maison d'arrêt de Rennes, laissant penser que Michel Fourniret était bien impliqué dans la disparition d'Estelle Mauzin. Ses propos ont été rapportés à la justice et il y a 5 ans déjà, la PJ de Versailles est allée questionner Monique Olivier qui a tout nié en bloc et assuré qu'elle ne côtoyait pas du tout cette ancienne prisonnière. Or, depuis, des vérifications ont été menées, 4 autres détenus de Rennes ont témoigné et ont confirmé que Monique Olivier s'était bel et bien livrée à des confidences ou à minima que son comportement changeait subitement dès qu'on évoquait l'affaire Estelle. La juge Sabine Kéris interroge donc à nouveau l'ex-femme de Michel Fourniret qui pour la première fois en novembre dernier a mis à mal l'alibi jusqu'ici avancé par son mari qui a donc été mis en examen. Mais le tueur en série a assuré à la juge qu'il n'a, je cite, pas souvenance de la fillette tout en demandant à être considéré comme coupable. Alors, si Michel Fourniret n'a plus ou prétend ne plus avoir la mémoire, la juge compte sur les souvenirs de Monique Olivier. C'est elle qui détient peut-être la clé pour enfin résoudre cette affaire.
Merci Guillaume Biais.
Hier dans ce journal, Pierre, nous vous parlions d'une opération de police dans un domicile à Épinal.
Sur place, les policiers ont découvert des engins explosifs et entre-temps, le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier et 3 personnes ont été placées en garde à vue, Salomé Legrand.
Et oui, tout est en fait parti d'un soupçon transmis par le renseignement territorial concernant un homme de 48 ans qui se serait vanté de savoir manier des explosifs. Or, cet homme est fiché S, suivi pour sa radicalisation, notamment du fait de ses liens avec le groupe Forza Nalizza, dissous en 2012. Les autorités décident d'une visite domiciliaire, le nouveau nom des perquisitions administratives. Sur place, les policiers sont renforcés par l'antenne RAID locale, dont le chien spécialisé dans la détection d'explosifs marque l'arrêt devant la cave. Le déminage est appelé en renfort. Il y a bien des explosifs de fabrication artisanale, une cocotte minute remplie de poudre noire et un sac de boulons notamment. La compagne du suspect absent du domicile est interpellée dans l'appartement. Son conjoint handicapé en fauteuil roulant, sorti il y a 6 mois de prison où il purgeait une peine pour trafic de drogue, est lui arrêté chez un ami. Tous 3 sont donc en garde à vue pour répondre à cette question. Avait-il un projet d'attentat ? et si oui, lequel?
Merci de ces précisions. Salomé Legrand.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 17. La suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Le saviez-vous, Pierre? Un chargeur de téléphone portable sur deux n'est pas en conformité avec la réglementation européenne. Du coup, eh bien, ils peuvent exploser. En tout cas, il faut s'en méfier.
C'est l'UFC Que Choisir qui alerte sur ces chargeurs qui peuvent présenter en effet des risques d'électrocution ou de départ de feu. Écoutez les conseils de Camille Gruyer de l'UFC Que Choisir.
On en trouve partout, il y a des grandes enseignes qui vendent des chargeurs qui ne présentent pas toutes les garanties de sécurité. Et c'est pas forcément une question de prix, c'est ça le pire, c'est qu'on a trouvé des bons chargeurs à 5 euros et des mauvais chargeurs à 15. Il faut plutôt se méfier des chargeurs sans marque. Déjà, si vous avez une boîte, c'est plutôt rassurant. On a reçu pas mal de chargeurs parmi ceux qu'on a achetés qui étaient livrés dans un petit sachet plastique sans aucune explication. Ensuite, sur l'emballage, il doit y avoir une petite maison qui vous indique que ce chargeur ne doit être utilisé qu'en intérieur. Si le fabricant vous indique pour quel type d'appareil ce chargeur est prévu, parce que à chaque appareil son chargeur. Il ne faut pas croire qu'on peut recharger n'importe quel appareil avec n'importe quel chargeur. Donc déjà, si on a une bonne information et quelqu'un à contacter dès l'emballage, c'est déjà plutôt bon signe, on va dire.
Camille Gruyer de l'UFC Que Choisir avec Clément Le Saffre. À propos de téléphone, un homme de 34 ans a été arrêté à Rieux-la-Pape près de Lyon. Il a harcelé son ex-compagne jusqu'à 20 fois par jour. Menace de mort à la clé. Entre août dernier et janvier de cette année, il a passé 3000 coups de fil, jusqu'à même blesser cette femme le 1er janvier dernier. Il devrait d'ailleurs être présenté aujourd'hui au parquet en vue d'une mise en examen.
Il est midi 18.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Le show NBA, ça se passe à Bercy. Et bien sûr, vos sorties pour ce week-end. A tout de suite sur Europe 1.
Il est midi 21, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et on parle de sport aujourd'hui et de basket,
yes.
Pierre. C'est le show à l'américaine ce soir à Paris-Bercy.
La NBA pose ses valises. Le temps d'un match dans la capitale, les Charlotte Hornets de Nicolas Batum affrontent les Milwaukee Bucks. La magie des Américains, c'est de savoir faire monter la sauce. Vous
Such
savez, alors que
amazing.
Nous, en France, on ne sait pas faire valoriser un Paris-Dijon. Les fans de la NBA qui ont l'habitude, Axel May, de se lever en pleine nuit pour regarder les matchs à la télé, ils vont en prendre plein la vue.
Ouais, imaginez qu'il y a eu 150 000 demandes de billets pour le match ce soir, sachant que 15 000 places seulement étaient disponibles. Herman, entraîneur de basket, a reçu comme cadeau d'anniversaire une place.
Quand j'ai su les prix des billets, je ne m'attendais jamais à pouvoir voir un match à Paris. Et c'était vraiment le dernier cadeau auquel je m'attendais.
Voilà, des places qui ont pu s'échanger jusqu'à plusieurs centaines d'euros lors des reventes. Alors Herman fait donc partie des privilégiés qui assisteront ce soir un show à l'américaine avec du spectacle, des mascottes, de la musique et bien sûr ce match entre les Charlotte Hornets du Frenchie Nicolas Batum et les Milwaukee Bucks du géant grec Giannis Antetokounmpo que tous les fans de NBA connaissent. Des fans qui dans leur majorité devront se contenter de regarder le match à la télévision ou sur internet. Irène est la maman d'une petite tribu adepte du ballon orange.
Oui, chacun a son équipe. Alors, le fiston, c'est Milwaukee, le papa, c'est les Knicks, le tonton, c'est Boston, on a oublié le tonton, et la choupinette, c'est Golden State. Mais voilà, donc je lave des maillots de toutes les couleurs à la maison, c'est super.
Voilà, et si Irène et sa famille n'ont pas de billets pour le match ce soir, ils se rattraperont au printemps prochain en allant voir jouer Milwaukee aux États-Unis. Eh oui, on est fan ou on ne l'est pas.
Exactement.
On ne parle pas basket à table chez eux. Sinon, ça va faire des ordres. Merci Axel May à Melbourne, la claque pour Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert, les tenants du titre, pourtant du double éliminé dès le premier tour.
C'est vendredi, Pierre.
Yes.
Eh oui, c'est l'heure de notre agenda culturel, les choix du service culture d'Europe 1 avec vous, Diane Chenouda.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
On commence par le cinéma, scandale, un film européen.
Absolument, sorti en salle cette semaine et qui nous plonge au cœur du scandale Fox News. C'était un an avant le début du mouvement MeToo. Trois femmes présentatrices de la chaîne ont fait tomber leur patron en dénonçant les agressions sexuelles dont elles ont été victimes.
Tu sais pourquoi Roger verrouille toujours la porte de son bureau ?
Il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un se révolte.
Gretchen Carlson, la présentatrice vedette de Fox News, a lâché une bombe aujourd'hui.
Qu'est-ce voilà, le film Scandale, donc porté notamment par Charlize Theron et Nicole Kidman, un film en effet européen.
Vous avez eu un vrai coup de cœur, Diane, pour le spectacle, le dernier one-man show d'Olivier de Benoist.
Ah oui, c'est vraiment hilarant, on est plié de rire du début à la fin. Il est excellent, Olivier de Benoist, qui, après avoir débité des horreurs sur les femmes, puis sur sa belle-mère, s'en prend maintenant aux enfants. Alors il sait de quoi il parle, il en a quatre.
Il y a pas écolo. Un enfant, ça pollue. 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Moi, j'ai 4 enfants, ça fait 400 tonnes. Alors, parfois, quand mes enfants me saoulent, je dis tiens, je ferais bien un petit geste pour la planète.
Non, mais c'est vraiment... c'est une catharsis, ce spectacle. Le petit dernier, le nouveau spectacle donc, d'Olivier de Benoît, La Nouvelle Ève à Paris jusqu'à mi-mars, puis en tournée. Côté expo, je vous signale l'exposition Alula, Merveille d'Arabie, l'oasis aux 7000 ans d'histoire. C'est à l'Institut du Monde Arabe, avec les images de Yann Arthus-Bertrand vues du ciel, sur ce patrimoine exceptionnel.
Vous avez voulu me faire plaisir, Diane. Oui. La musique, c'est le grand retour d'un DJ et producteur français.
Qu'on adore, The Avenue. On se souvient tous du remix de Fade Out Lines, sur lequel on danse en soirée. Alors il sort un nouvel album aujourd'hui. Il a collaboré notamment avec Bob Dylan, qui lui a demandé de remixer l'un de ses titres, Masters of War.
I'm your masters of war. Here to build the big guns.
Cette chanson, elle a été écrite dans les années 60 par Bob Dylan, et alors qui parle de choses un peu des chefs, nos gouvernants qui attirent l'arigot. Tire la sonnette d'alarme, envoie des missiles, mette des peuples à la rue, dans la famine. Cette chanson, elle a encore tout son sens 60 ans après, et je suis très très fier d'avoir cette collaboration sur mon album.
C'est toujours excellent,
hein, on reconnaît les harmonies. Hein.
Qu'est-ce qu'on a envie de danser là-dessus?
Formidable.
Allez-y,
merci Diane.
Au micro d'Angèle Châtelier.
Merci Pierre, vous revenez à 13h pour un nouveau journal sur Europe 1. Il est midi 26.
Europe 1.
Chiche et Halte Urgence, deux projets qui veulent se développer, vont-ils aujourd'hui sur Europe 1 convaincre nos experts? Réponse dans la France Bouge Académie.